Bonjour mes chers auditeurs. Comme moi, vous avez sans doute vécu ces derniers jours au rythme de la révolution égyptienne. Nous en connaissons le dénouement provisoire. N'étant pas un ville, je ne m'hasarderai pas à prévoir l'avenir. L'analyse du présent me suffira. La première leçon à tirer des événements de Tunisie et d'Égypte est celle-ci. Les dictateurs pourris ont fait croire à l'Occident qu'ils étaient les derniers barrages contre l'islamisme. Il fallait donc les soutenir coûte que coûte. Nos dirigeants se sont donc confondus en courbettes devant eux, tandis que l'international socialiste accueillait à bras ouverts les partis majoritaires, je devrais dire plutôt totalitaires, de ces deux pays. En fait, les islamistes si redoutés n'ont joué qu'un rôle assez modeste dans ces deux révolutions. Certes, les sociétés arabes se sont réislamisées depuis 30 ans, par opposition à des pouvoirs corrompus. Et pourtant, comme le notait Olivier Roy dans un article du Monde, on a pu remarquer l'absence de slogans islamiques dans les manifestations. C'est le paradoxe de l'islamisation, elle a largement dépolitisé l'islam. Quand tout est religieux, dit-il, rien n'est plus religieux. En fait, ces dictatures orientales, la Tunisie mise à part, n'ont pas réellement lutté contre l'islamisme. Ils ont abandonné la société civile, ce qui est un jeu très dangereux. On aura remarqué aussi que dans ces révolutions, les islamistes, souvent échaudés dans le passé, sont restés très en retrait. En Égypte comme en Tunisie, le pouvoir est entre les mains de l'armée. Au Caire, c'est le Conseil suprême des forces armées qui dirige. Or, il semble que celui-ci soit divisé, et pourtant les décisions à prendre sont urgentes. Sur le plan intérieur, c'est la révolte sociale qui a donné un second souffle à la révolution qui s'épuisait. Ce sont les grèves qui ont éclaté un peu partout, qui ont contraint Moubarak à partir et Souleymane à disparaître, au moins provisoirement, mettant par terre les savantes manœuvres de diversion organisées à Tel Aviv et à Washington. N'oublions pas que 40% des Égyptiens vivent avec moins de 2 dollars par jour et par personne, alors qu'une petite minorité de privilégiés étale son luxe. Mais il y a eu d'autres motifs de révolte. N'aura pas été sans remarquer que les Égyptiens, à la différence des Français à qui nos gouvernants font honte d'être Français depuis l'avant-guerre, sont très nationalistes. Ils étaient donc hostiles à un régime jugé pro-américain et pro-israélien. Rappelons que dès le début de la révolte, le maréchal Tantawi, ministre de la Défense, s'est rendu à Washington pour expliquer la situation et prendre des ordres en interrogation. De leur côté, Obama avait envoyé en Égypte un dénommé Wisner pour suivre de près la situation, car l'Égypte n'est pas la Tunisie. Ce pays a une position stratégique grâce au Nil et au canal de Suez. Mais surtout, il se trouve à côté d'Israël, dont on connaît le rôle dominant dans le monde, et spécialement au Proche-Orient. Les désirs de Tel Aviv sont bien évidemment des ordres pour les Américains. Sur le plan extérieur, les États-Unis, l'Europe et Israël faisaient mine de se réjouir de ce grand mouvement de démocratisation. Mais en réalité, ils étaient très inquiets. Les gouvernants d'un pays qui se proclame sans rire la seule démocratie du Proche-Orient ont rappelé ce qui s'était passé en Iran après la chute du Shah et à Gaza après les élections de 2006. Car on a beau être démocrate, on aime le peuple que lorsqu'il se révolte ou lorsqu'ils votent dans le sens désiré. Sinon, la démocratie n'existe pas. C'est ce que les Israéliens se tuent à nous expliquer depuis 3 semaines. James Baker, ancien secrétaire d'État de George Bush, père, a déclaré au Council on Foreign Relations que, dans la formulation de notre politique étrangère, il faut bien sûr prendre en compte les principes démocratiques, droits de l'homme, liberté, etc., mais aussi l'intérêt national. Dans quelle mesure l'entité avec laquelle nous traitons est alignée sur les États-Unis. Dans le cas de l'Égypte, les deux considérations sont fondamentalement opposées. Voilà qui est clair. La démocratie ou prétendue-t-elle, la liberté ou les prétendus droits de l'homme, d'accord, mais quand ça nous arrange? Remarquez, le Premier ministre israélien ne dit pas autre chose. Les droits de l'homme, la liberté pour les Juifs, c'est évident, mais pas pour les Arabes. On ne sait pas ce qu'ils pourraient en faire, d'ailleurs. Ils pourraient, par exemple, bombarder Gaza ou le Liban, ou violer toutes les résolutions de l'ONU. Ce serait atroce. Mieux vaut qu'ils restent sous le joug des dictatures pourries qui mangent dans la main des sionistes qui, eux, sachent ce que c'est que la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. Si vous ne me croyez pas, demandez aux Palestiniens, ils vous en diront des nouvelles. Hélas, les choses ne semblent pas tourner aussi bien que les habituels tireurs de ficelles ne l'espéraient. En dépit du désir de certains militaires, qui sont très liés avec les Américains, Américains qui fournissent 1,3 milliard de dollars pour équiper l'armée, il semble qu'à terme, le traité de paix Léonin de 1979, qui lie l'Égypte à Israël, soit condamné. Déjà, les livraisons de gaz ont été interrompues et l'ambassade d'Israël au Caire a dû retirer son drapeau. Bref, les choses ne vont pas aussi bien que le mouvement, d'autant que le mouvement s'est étendu au Soudan, mais surtout au Yémen, talon d'Achille de l'Arabie Saoudite, dont les dirigeants sont totalement corrompus, et en Jordanie. Bref, vous l'avez compris, mes chers amis, le temps était maussade. Je dis ça sans jeu de mots, bien sûr. Pour tous ceux, néocons et bellicistes de tout poil, qui espéraient vitrifier l'Iran, c'est-à-dire démocratiser le pays, comme ils l'ont fait d'ailleurs en Irak et en Afghanistan avec le succès que nous connaissons tous. La révolution égyptienne, dont on ne sait si elle se penchera vers le modèle turc, si elle penchera vers le modèle turc ou vers le modèle iranien, a rendu plus difficile ce cauchemar. C'est déjà une bonne chose. Elle permettra peut-être aux Libanais de se gouverner librement, c'est-à-dire sans la menace israélienne, car nos bons amis vont avoir un paquet de soucis dans le sud. De son côté, Mahmoud Abbas, dont Moubarak était l'un des plus fermes soutiens, sent le sol vaciller sous ses pieds. C'est une excellente chose, car ce triste sire était prêt, comme nous l'avons appris par les dépêches de Wikileaks, à faire toutes les concessions pour arriver à une paix honteuse avec les Israéliens. Heureusement, ceux-ci, poussés par un mépris sans limite, ont refusé tout compromis. Désormais, la paix des sionistes va être beaucoup plus difficile à imposer, car les gouvernants collabos auront peur des peuples qu'ils ont bernés et trompés allègrement au profit de l'occupant. L'Ecclésiaste dit que la crainte est le commencement de la sagesse. Le printemps arabe fait peur à Israël et à ses alliés. Espérons que cela les fera réfléchir en leur faisant comprendre que le bon temps où l'on tirait les ficelles chez les autres était fini. Espérons aussi, sans trop y croire, qu'Israël va enfin foutre la paix à tous ses voisins, à ses voisins proches comme le Liban et la Syrie, ou lointains comme l'Iran. Ce serait vraiment formidable, mais ne rêvons pas trop, car le sionisme porte en lui la guerre comme la nuée l'orage. Avant de vous quitter, mes chers auditeurs, je voudrais vous lire le courriel que j'ai reçu ce matin du professeur Ziad Megdou, professeur de français à Gaza. Son style est si parfait que je n'en ai pas changé un mot. Voici son message. Il est un peu long, mais venant de Gaza, je suis sûr que cela vous passionnera. Le temps n'est-il pas venu d'instaurer la justice en Palestine? Tel est le titre du courriel. Nous, Palestiniens, avons suivi avec beaucoup d'intérêt les événements qui se sont déroulés ces deux derniers mois en Tunisie et en Égypte, et nous avons salué la victoire de la révolution populaire pour le changement, la démocratie et la justice sociale dans ces deux pays. Très attentifs ces 18 derniers jours à l'évolution de la situation en Égypte, pays voisin, pays ayant des relations particulières avec les différentes tendances politiques d'une autre, pays qui a un rôle clé au Proche-Orient, nous avons remarqué l'intérêt particulier de la communauté internationale officielle, Nations Unies, États-Unis, Europe et autres, à la situation en Égypte, demandant presque tous les jours le départ du président et le respect de la volonté du peuple d'entrer dans une nouvelle ère, une ère de démocratie. C'est donc au nom du respect de la volonté populaire, au nom des principes humains, mais surtout au nom du respect de la démocratie, que ces puissances politiques ont réclamé le changement du système en Égypte. Système qui a, selon eux, violé les droits fondamentaux du peuple égyptien et qui a instauré dans ce pays la corruption et l'injustice. La question se pose, pourquoi cette communauté reste-t-elle souvent silencieuse lorsqu'il s'agit des violations permanentes par Israël des droits les plus fondamentaux des Palestiniens? Là, j'ajoute que c'est une excellente question. Israël est un État colonial créé sur le massacre d'une partie de la population palestinienne. Il continue de bâtir des colonies et de façon illégale sur des territoires reconnus occupés par les résolutions des Nations Unies et personne ne bouge. Depuis sa création en 1948, Israël pratique en toute impunité une politique de déportation, de racisme, d'assassinat envers les Palestiniens. L'État d'Israël a créé le problème des réfugiés palestiniens qui vivent dans des conditions humanitaires épouvantables dans les pays voisins. Cet État continue, au vu et au su de cette communauté internationale, à produire toutes sortes d'armes nucléaires, chimiques et biologiques, et c'est grâce à cet armement qu'il tient en otage tous les peuples de la région. L'État d'Israël est le seul État qui n'a jamais appliqué aucune résolution des Nations Unies, et cela encouragé par les grandes puissances internationales. Ce sont souvent la droite et l'extrême droite qui dirigent cet État raciste et colonial, sans aucune réaction de ces États dits libres, qui prétendent lutter contre le racisme et l'apartheid. L'État d'Israël traite les citoyens arabes qui vivent comme des citoyens de seconde zone, il les prive de beaucoup de leurs droits civiques et politiques, et l'Occident le considère comme la seule démocratie au Proche-Orient. Quelle démocratie, quelle hypocrisie. Cet État a assassiné en octobre 2000 13 de ses citoyens arabes solidaires de la deuxième intifada déclenchée par les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Israël a construit un mur de la honte et d'apartheid, qui sépare les villageois palestiniens de leurs terres, les élèves de leurs écoles. Et malgré tout cela, aucune organisation internationale n'a osé dénoncer cette construction illégale, malgré la chute saluée par elle de tous les murs, comme le mur de Berlin. Israël a installé partout en Cisjordanie des centaines de checkpoints qui rendent la vie des Palestiniens de plus en plus difficile. Israël impose depuis plus de 4 ans un blocus inhumain à 1,5 million de Gazaouis, avec des conséquences mortelles pour la population civile, sous le silence complice et bienveillant de cette communauté internationale officielle. Israël a enfermé dans ses prisons et ses centres de détention plus de 10 000 Palestiniens qui y vivent dans des conditions inhumaines, parmi eux des enfants et des femmes. Pendant plus de 10 jours, en 2009, Israël a mené dans la bande de Gaza une guerre sans merci contre une population affamée, en utilisant des armes interdites, en perpétrant des crimes de guerre sans entendre le mot « arrêter cette guerre » de la part des puissances internationales. Ces massacres s'ajoutent aux massacres de Sabra, Shatila et Jenin. Maints exemples de l'histoire noire de cette occupation contre les Palestiniens, massacres, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, la liste est longue, trop longue. Le comportement de cet État qui pratique le terrorisme d'État contre le peuple palestinien est souvent encouragé et soutenu par cette communauté qui prétend aider la population arabe à trouver la liberté et la démocratie. Israël ne respecte pas les conventions internationales dans les territoires palestiniens. Le droit international y est bafoué. Nombreuses sont les entraves à la démocratie. On y assiste quotidiennement à l'injustice, aux violations des droits de l'homme et la communauté internationale ne réagit pas. Le temps n'est-il pas venu pour cette communauté internationale de changer sa politique de deux poids, deux mesures au Proche-Orient et essayer d'imposer néanmoins l'application du droit international? Cette communauté qui soutient les massacres, le terrorisme d'État d'Israël doit assumer sa responsabilité et dénoncer les violations israéliennes des droits de l'homme. Après ces révolutions successives dans le monde arabe, avant que les choses n'explosent en Palestine contre les mesures d'occupation et pour sa crédibilité, la communauté internationale doit respecter ses engagements, imposer avant tout le respect de l'application des résolutions des Nations Unies et répondre à notre demande. Une demande très simple, nous voulons la paix, oui, une paix dans la justice. Les Palestiniens qui ont beaucoup souffert et continuent de souffrir des pratiques antidémocratiques appliquées par Israël espèrent un changement de la part de la communauté internationale. Ils souhaitent une révolution dans ces décisions et réclament la justice, rien que la justice. Cette communauté internationale aveugle et silencieuse ne réalise pas que les peuples arabes s'inspirent dans leur révolte de la Palestine et de ses habitants. Ces deux intifadas et de leur résistance qui sont pour eux un modèle sur lesquels ils s'appuient pour leurs revendications. Nous sommes pour une paix juste et réelle dans notre région, une paix dans la justice, et si cette communauté internationale peut vraiment nous aider à être rattachée au principe de la démocratie et de la paix, elle doit appliquer la justice. Voilà, merci mes chers auditeurs. Cela a été un peu long, mais je pense qu'il valait la peine de lire cette lettre, tout est évidemment en mettant un bémol sur ce que sont les démocrates, la démocratie et les droits de l'homme, car pour ma part, je n'y crois pas, ce sont des grands mots. Ce qu'il faut absolument pour les Palestiniens, c'est, comme le dit le Ziad Bekdoum, qui est professeur de français à Gaza, il faut la justice et le respect. Voilà ce qu'il faut exiger. Merci mes chers auditeurs, au mois prochain.